Dans le Finistère, toute l'année, il y a des salons, il y a des festivals, presque tous les week-ends, on ne s'en plaint pas. Ce week-end, c'était le salon Vin, Nature et Illustration, 3e édition au Fou, dans la rue commerçante. La radio y était. On a installé notre studio dans la rue, on a réalisé plusieurs émissions avec des viticultrices, des viticulteurs, des illustratrices et illustrateurs. On a aussi rencontré une association étonnante, l'Association pour la reconnaissance des vins bretons, ARVB, dont le secrétaire est à l'opérette et il s'appelle Yves Abautrette.
L'ARVB, l'Association pour la reconnaissance des vins bretons, fêtera bientôt ses 20 ans. Elle a déposé ses statuts en 2006, donc ça commence à remonter un petit peu.
Mais alors c'est incroyable parce que c'est avant même qu'on ait le droit de planter de la vigne en Bretagne, puisque j'ai appris que c'était en 2016.
Oui, tout à fait. Bonne remarque. Et donc oui, cette association, elle est née bien avant. Et elle est née au travers de quelques passionnés, quelques amateurs qui font toujours partie de l'association. Hein. Ce sont nos pères, les pionniers de la RVB. En fait, des passionnés en Bretagne qui ont découvert au début des années 2000 que dans les campagne, notamment en centre-Bretagne, certaines personnes dans leur jardin cultivaient de la vigne et non seulement la cultivaient, pas pour faire du raisin de table, mais pour tenter de vinifier. Et puis certains d'entre eux ont connu quelques déboires parce qu'ils avaient planté des hybrides, ce qu'on appelle des plants hybrides résistants, normalement interdits hors région viticole. Voilà, donc sans refaire toute l'histoire, comment est née la RVB ? Elle est née d'une volonté de défendre la possibilité pour des amateurs de faire du vin et de se défendre contre une administration un petit peu zélée.
Ils ont eu quoi, des amendes, ces gens-là ?
On les a menacés, on leur a demandé d'arracher leur plantation.
Alors que c'était des cépages, enfin des vignes qui venaient de Bretagne, vraiment ?
Le souci, en fait, il était que depuis le milieu du XXe siècle, la Bretagne n'était, pour l'État français, plus considérée comme une région viticole.
Mais peut-être que des gens avaient gardé quand même des pieds de vignes.
Alors, ils n'en avaient pas gardé. Par contre, ils avaient l'amour, la passion. Et puis, certains choisissent de faire des fraises, un potager. Eux avaient choisi de faire du vin sans faire de mal à personne. Et c'est même plus dommageable que ça. C'est que c'est eux qui ont pris le parti de s'adresser à l'administration pour montrer patte blanche et dire peut-être que j'aurais dû faire une déclaration.
Carrément, mais de toute façon, ils n'avaient pas l'intention de vendre. Donc
non. Donc, voilà.
Si la loi avait été prise pour éviter la surproduction, elle n'avait rien à dire sur le
tout
vin amateur.
Mm-hmm. Voilà, on va dire que les services de douane de Nantes regardaient ça d'un mauvais œil. Et puis, donc les pères fondateurs de la RVB se sont réunis, ont décidé de créer une association. Et puis, ils ont fait un petit peu de lobbying. Ils ont repris les textes de loi. Et puis, ils ont réussi un premier pas de géant pour les départements de l'ouest de la France, c'est de faire admettre qu'une viticulture amateur, en association ou en mode privé, dès lors qu'elle n'avait pas de but de commercialisation, qu'elle se limitait à quelques pieds de vigne, ne faisait de mal à personne et elle était tolérable par l'administration.
Oui. Alors, moi qui ne sais pas du tout faire de vin, juste, il faut combien de pieds de vigne, en gros, pour réussir à faire son petit vin
Un pied, voilà. Ah oui, j'ai envie de vous dire, avec un pied, on y arrive très bien. Et souvent, ça commence comme ça.
Donc, il ne faut pas trop de matériel, finalement
Non, pas spécialement.
Mais pas de pressoir, finalement.
Si, mais un petit pressoir de table à fruits, ça peut faire le boulot pour commencer. Ça peut faire le boulot pour commencer. Et souvent, en fait, dans le monde de la viticulture amateur, souvent ça commence comme ça. Moi, à titre personnel, sur ma façade à la maison, plein sud, j'ai du chasselas.
C'est donc du raisin. À l'opérette, c'est ça
Au Tréhou.
Ouais, au Tréhou.
J'ai du raisin de table. Et puis un jour, je me suis dit... passionné de vin depuis longtemps, je me suis dit mais pourquoi je ne garderais pas quelques kilos pour essayer de faire mon petit vin maison. Et puis on met la main à la pâte et puis après on a des envies d'un peu plus grand et puis on se dit allez on plante quelques pieds ou bien on se met en association.
Oui, c'est comme ça qu'il y a le coteau du Fogot qui est né.
C'est
peut-être
comme ça qu'il y a le coteau du Fogot et qui lui rentre pleinement dans le cadre administratif qui est légal en France et qui encadre les vignes qu'on appelle les vignes familiales. Donc il y a la viticulture professionnelle depuis 2016, y compris en Bretagne, mais il y a aussi une administration qui s'occupe de la viticulture amateur. Donc ça s'appelle les vignes familiales. Et ça se résume en deux choses. Pas plus de 1000 mètres carrés et aucun droit de commercialisation. Tant qu'on respecte ce cadre-là, tout est possible.
Donc le coteau du Fogot, c'est à l'opérette.
À l'opérette, oui.
Il y a une seule parcelle ou...
Une seule parcelle, oui.
Bien exposée, pareil.
Oui, une belle exposition sud, sur un terrain communal, donc on loue à la commune.
Ah oui.
Et donc nous sommes 70 dans l'association depuis 2018. Et nous sommes fiers d'avoir fait notre première vendange l'automne dernier. Et d'ici 15 jours, 3 semaines, on va faire notre première mise en bouteille.
Donc vous avez goûté un peu ce que ça donnait
On a goûté ce que ça donne. On est plutôt content de notre résultat. Surtout pour une première vendange sur des plants de vignes qui sont jeunes. C'est prometteur.
Ouais. Coteau du Fogot, ça y est, étiquette sur la bouteille et tout.
Oui, et puis en plus, dans notre monde amateur, toutes les fantaisies sont permises. Oui. Il n'y a pas de commercialisation, on n'a pas de cadre à respecter. Donc,
vous pouvez faire preuve de créativité.
Tout à fait.
Et donc, le Coteau du Fogot est adérant de l'association des vins bretons. C'est comme ça que ça fonctionne.
C'est ça. Donc l'association pour la reconnaissance des vins bretons qui fêtera bientôt ses 20 ans. Aujourd'hui, elle est forte de 150 adhérents. Donc c'est une croissance exponentielle. Alors curieusement, on s'était dit au tournant de 2016, une viticulture professionnelle va émerger, va naître. Et peut-être que du coup, le monde amateur va s'éclipser, va disparaître ou va rester à sa taille. Et puis c'est tout le contraire en fait qui se produit. Les premiers vignerons professionnels, beaucoup d'entre eux sortent de notre association. Ils ont fait leur premier pas avec nous. Et dès lors qu'ils ont eu le droit de planter, de prendre leur destin en main. Au tournant de 2021, quelques-uns d'entre eux se sont dit, puis on leur a un petit peu dit également, vos objectifs ne sont plus les nôtres,
c'est ça.
Fédérez-vous entre vous, prenez votre destin en main.
Un syndicat des viticulteurs.
Et donc ils ont créé leur propre association, l'association des vignerons bretons, l'AVB. clin d'œil, ils ont juste enlevé le R, manière de dire qu'ils sont... ils aiment bien dire qu'ils sont la petite sœur de la RVB. Quoi.
Mais ceci dit, la RVB, puisque vous avez obtenu finalement cette reconnaissance, vous pouvez enlever le R, vous pouvez, en tout cas, vous pouvez changer d'activité. Vous avez, j'imagine, changé un peu d'activité.
Alors, on a changé d'activité. Nos missions, elles ont évolué. Et aujourd'hui, on est beaucoup dans l'accueil, l'orientation des porteurs de projets. Souvent, la première porte d'entrée en Bretagne, c'est la nôtre. Donc, ils s'adressent à nous. J'ai envie de faire du vin en amateur ou j'ai envie de faire un projet professionnel. Je ne sais pas comment m'y prendre. Je ne connais pas la réglementation. Je ne suis pas dans les réseaux. On les aide à structurer un petit peu leur projet, à garder aussi les pieds sur terre, parce que la viticulture professionnelle, c'est un sacré défi dans nos régions.
15 ans pour faire un vin, c'est ça à peu près?
Oui, on dit qu'une porter une vigne à maturité, une dizaine d'années, oui.
Ouais.
Quand on plante, première récolte, 4 ans, premier revenu, 5 ans. Et on va dire l'évolution, pour amener le vin à sa typicité, à celle que le vigneron imagine, une 10 à 15 ans.
Et encore faut-il que ça soit bon, parce que voilà, après il faut que ça marche.
Et le pari, c'est que être bon est bon régulièrement, tout à fait.
Et il y a quand même, est-ce que c'est les, on parle de la Bretagne, mais est-ce qu'il y a plutôt un prisme Sud-Bretagne, Morbihanais, ou est-ce que vous constatez qu'il y a des amateurs un peu partout dans la région?
Alors dans le monde amateur, ils sont partout. Nos adhérents sont sur les 4 départements, même les 5, parce que l'ARVB couvre également la Loire-Atlantique. On a des adhérents en Loire-Atlantique. Nous,
qui n'a plus de preuves à faire sur le plan.
Qui n'a plus de preuves à faire, mais notre périmètre à nous, c'est la Bretagne historique. Donc on a des adhérents partout. Dans le milieu professionnel, ce qu'on remarque, c'est que la vigne se réimplante là où des spots ont existé dans le passé. C'est le Val d'Orance, c'est énormément le golfe du Morbihan, mais c'est aussi le secteur de Redon, par exemple.
Donc c'était les bastions, c'était les régions qui avaient résisté en fait le plus longtemps avant qu'on interdise le vin en Bretagne.
Pas spécialement résisté, mais c'est les régions qui déjà avaient les conditions les plus favorables.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Et on sait que à l'ouest de cette ligne-là, historiquement, les conditions ne permettaient quand même pas, avant les modifications climatiques que l'on connaît, de porter de la vigne à maturité. Donc aujourd'hui, ça change.
Vous l'observez déjà, ce changement ?
Oui, on l'observe. On l'observe dans nos rangs. À la RVB, on a une climatologue qui fait partie de notre association et donc qui nous fait bénéficier de ses travaux à l'université de Rennes 2. Et elle mène beaucoup de projets collaboratifs autour de l'étude de l'adaptation de la vigne aux modifications climatiques. Et donc son spectre à elle, c'est la Bretagne. Et donc,
Ce n'est pas une vue de l'esprit. Vraiment, non, ce n'est pas une vue de l'esprit.
Ce n'est pas une vue de l'esprit. Et donc, c'est documenté. On a beaucoup de data, puisqu'on met nos parcelles à sa disposition pour qu'elle y implante des sondes de température, des stations météo, où on se connecte tous les jours et on voit clairement. Si on doit retenir un chiffre, on sait aujourd'hui que la température moyenne à Rennes, elle est égale, voire légèrement supérieure à la moyenne des températures à Bordeaux sur la trentennale 1950-1980.
Donc ça y est, quoi. Voilà, ah, y a peut-être plus d'humidité, non, même pas
Au niveau température, il y a ce qu'il faut pour amener le raisin à maturité. Alors selon les cépages, plus ou moins. Il y a des cépages qui vont très bien s'adapter dans le Morbihan, un petit peu moins dans le Nord Finistère. Il y a encore des gradients. Et puis, il y a une particularité, effectivement, c'est l'humidité. Mais l'humidité, elle est relative également. Vous prenez le sud Morbihan, c'est pour ça qu'on y trouve la vigne. C'est guère plus de 600-700 mm par an, c'est l'équivalent de Bordeaux, voire un petit peu moins. Le centre des Monts d'Arrée, c'est déjà le double. Donc les zones littorales sont plutôt favorables, elles sont non gélives, elles ont un petit peu moins d'eau. Et puis notre façon de s'adapter, et c'est le choix de certains viticulteurs, c'est de choisir de planter des variétés dites résistantes.
Au mildiu notamment, enfin,
au mildiu et à l'odium, aux maladies cryptogamiques.
Et en termes de sol, la Bretagne, je ne sais pas, pour caricaturer, ça, c'est les sols acides. Enfin, est-ce qu'on a vraiment des sols appropriés au vin ?
Oui, on a des sols appropriés au vin. La vigne, elle s'adapte relativement bien à tout type de sol. Dès lors qu'on connaît la nature de son sol et qu'on choisit en conséquence un cépage qui normalement devrait s'y adapter. Aujourd'hui, les pépiniéristes peuvent aussi fournir des porte-greffes adaptés à des sols plus ou moins acides. Ce que n'aime pas la vigne, c'est de rester les pieds dans l'eau trop longtemps. Donc le caractère recherché, ce sont des sols qui sont capables de drainer, d'évacuer.
Pas trop argileux, quoi, en fait, c'est ça.
L'argile, c'est pas non plus quelque chose de forcément nocif. Le choix, c'est d'avoir un terrain qui soit vraiment bien orienté. Ouais. Voilà.
Soleil.
Le changement climatique est en place et la température remonte même en Bretagne. Par contre, en fin de saison, les journées sont courtes en Bretagne. Passé septembre, les températures diminuent. Le défi, c'est sur la fin de période végétale, c'est de réussir à amener le raisin à maturité. Donc une bonne orientation. Et puis, les excès d'eau, il faut que le terrain les évacue.
Et, en revanche, on a des atouts. Enfin, c'est-à-dire qu'il voilà, n'y aura pas de gel. Est-ce qu'on a moins de grêle qu'ailleurs ? Je ne sais pas.
Vous allez alors, le risque, comme dans toutes les régions, ce sont les extrêmes en fait, climatiques. Donc, et ce qu'on voit très bien dans les analyses de notre amie Valérie Bonardo, c'est qu'il y a une élévation de la température moyenne qui est favorable à la culture de la vigne. Mais comme dans les autres régions, il y a aussi de façon exponentielle, de plus en plus d'événements brutaux, imprévisibles. Donc le gel, on se croyait à l'abri. En 2021, les premières vignes du Morbihan, en zone réputée non gélive, elles ont pris un coup de gel en avril, en mois de mai. À l'Opérette, on a subi du gel, donc on n'est pas à l'abri.
Puis il y a les tempêtes. Alors, c'est peut-être que la vigne n'est pas forcément plus touchée par les tempêtes que ça. Mais
les tempêtes, elles interviennent souvent en saison non végétative. Donc c'est pendant la période de repos. Ce n'est pas très, très, très gênant. Le vent, ce n'est pas trop gênant non plus. Par contre, voilà, le gel, la grêle, comme dans les autres régions, c'est un risque.
Ni plus ni moins. Et puis il y a la question quand même, il faut le dire, du savoir-faire. C'est-à-dire que je pense quand on pense au fromage breton, on voit que c'est encore balbutiant parce qu'on n'a pas de tradition. Oui. Donc pour le vin, il va falloir qu'on apprenne.
Eh bien les Bretons apprennent.
Vite.
Donc vite. En fait, les premiers vignerons professionnels qui en 2016 ont profité du changement législatif, ils étaient prêts. Leur profil, c'était jeune, trentenaire. Certains d'entre eux avaient déjà un BTS vitivinicole en poche, parce qu'ils avaient mûri leur projet. il l'aurait fait ailleurs, la modification de réglementation a fait que tout d'un coup, c'était possible de le faire au pays ou de revenir au pays. Donc,
on a une bonne école d'œnologie à Vannes, par exemple.
Voilà. Enfin, ouais, donc le diplôme, certains l'avaient, d'autres étaient en cours de formation. Voilà, dans les écoles de formation viticole de Angers ou ailleurs, ou en Bourgogne, avaient fait leur stage chez des viticulteurs. Donc, ils étaient armés. Et mais pour préparer passion. La suite de l'histoire, en fait, une chose très importante qu'ils ont fait dès 2021, ils ont eu, je pense, le nez de le faire, c'est de se dire très rapidement, même s'ils étaient que 10, 15, 20, c'est de se dire, demain, on aura besoin de personnel pour venir travailler dans nos vignes. Formons-le tout de suite. Et donc à Auray, au lycée agricole de Kerplouze, dès 2021, des sections de formation ont été créées par Aurélien Berthou, un Finistérien, vigneron, œnologue. Donc il a planté, lui, de la vigne à Auray sur l'espace du centre de formation de Kerplouze et il a monté deux diplômes de formation, donc gérant, exploitant, d'un établissement viticole et salarié des exploitations viticoles.
Et alors, le salarié d'exploitation viticole, il fait quoi ? Il apprend à tailler la vigne et
il
puis
apprend à tailler, il apprend tous les travaux dans la parcelle et tous les travaux de vinification au chai.
Alors, la vinification, justement, ça, c'est vrai que c'est une partie... Il n'y a pas que la culture de la vigne pour
mais
faire
non,
du vin.
Tout à fait.
C'est que la moitié du boulot, finalement, la culture
Exactement.
De la vigne. Alors, la vinification, donc, c'est une fermentation, c'est ça ? Qu'est-ce qu'on fait enfin,
Le principe de base, c'est exactement celui-là, c'est la fermentation, c'est d'utiliser des levures. Alors, par
ou
exemple,
pas,
ici,
quand c'est du vin nature d'ailleurs.
Alors si, les levures, ce qu'on appelle les levures indigènes, mm-hmm. celles qui naturellement sont présentes sur le raisin, ce qui est très bien illustré sur le salon ici au Fou ce week-end. Ou des levures importées, voilà, ou un mixte. Des deux. Donc c'est, mais le principe, c'est la fermentation. On transforme les sucres de la baie de raisin en alcool. Donc ça, c'est le principe général. Ensuite, il faut apprendre effectivement le métier. Chez les amateurs, c'est un défi. Et c'est pour ça que notre modèle associatif, en fait, il est... Et notre création de réseau, il permet à ceux qui n'y connaissent rien d'apprendre de leur père, d'aller expérimenter chez le copain, chez le voisin. Et dans nos missions, ce qu'on essaye de partager aux gens qui nous rejoignent, et puis même ceux qui sont présents depuis plus longtemps, c'est de faire du retour d'expérience, se rencontrer régulièrement, faire notre assemblée générale tous les ans, et qui se termine en point d'orgue par la dégustation des vins amateurs de Bretagne. Donc tous nos adhérents qui ont vinifié apportent leur bouteille, on déguste, on critique, avec une critique bienveillante, et puis on s'échange... On essaye surtout de faire en sorte qu'une erreur commise ne soit pas répétée par le copain à côté.
Ouais.
Et c'est comme ça qu'on grandit tous ensemble, en fait.
Et vous ne proposez pas des stages, des ateliers, des choses
comme
ça ?
Si, voilà. C'est comme on grandit et comme notre nombre va croissant, à 150 adhérents, on se sent un petit peu plus obligé. On profite en fait qu'il y ait une structure professionnelle qui est en train de se monter. Et on les connaît parce qu'ils sont issus de nos rangs. Alors, on est dans une logique d'échange intelligent. On leur fait profiter de nos 20 ans d'apprentissage empirique. Et ils ont vu nos réussites comme nos échecs, ils s'en inspirent. Ils viennent voir nos parcelles plus anciennes, parce que voir une parcelle qui a 30 ans, ils en ont une à 50 km, c'est mieux que de traverser la France. Donc, ça les intéresse beaucoup. Et en échange, ils sont professionnels, ils sont diplômés. À Auray, donc une structure s'est montée. Donc, on essaye d'organiser des petits stages pour les amateurs, pour permettre la montée en compétences.
Et donc, vous diriez, vous, puisque vous en avez l'expérience personnelle, qu'est-ce qui est plus dur, alors, c'est de cultiver la vigne ou c'est de vinifier ?
Ce sont deux métiers différents, effectivement.
Ah ouais, c'est ça.
Et les professionnels ont cette humilité de dire que beaucoup ne veulent pas s'appeler encore vignerons parce qu'ils n'ont pas franchi ce pas, ils n'ont pas fait leur première vendange. Donc ils sont viticulteurs, ils sont dans la parcelle, ils s'occupent de leur végétal. Et ensuite, on devient vigneron. Je ne sais pas s'il y a un qui est plus dur que l'autre. Les deux sont interdépendants. Si on travaille mal dans la parcelle, On peut avoir la meilleure technique du monde. Si le raisin n'est pas bien travaillé, il ne fera pas un bon vin.
Oui, parce qu'il y en a qui commencent, avant de cultiver leur vigne, qui commencent par vinifier des vignes qui sont allées chercher ailleurs aussi.
Tout à fait.
C'est ça.
Tout à fait.
Et en Bretagne, est-ce que le climat ou les conditions font que la vinification est plus difficile ou pas? Est-ce qu'il y a des contraintes ou est-ce qu'on arrive à s'en sortir
Non, on arrive à s'en sortir. On arrive à s'en sortir parce qu'on est au chai, on veut dire qu'on s'est un petit peu, coupé des conditions extérieures.
On s'affranchit de.
On s'affranchit, mais on va travailler avec le raisin et la saison qu'on aura eue. Donc après, c'est de la technicité, puis de l'expérience. Nous, on est amateurs. L'ambition, c'est de faire un vin qui nous plaise. Mais l'ambition, c'est de réussir à faire quelque chose qui n'est pas de défaut. C'est déjà une belle satisfaction.
Et parmi les 150, alors j'imagine que tout le monde ne fait pas du vin, mais quels sont les types de vins qu'on trouve dans votre association amateur?
Ce qui est magique, c'est qu'on trouve de tout, absolument de tout. Comme on est hors IGP, hors AOP, hors cadre d'appellation, on peut se permettre de planter tous les cépages qu'on veut.
Vous faites des champagnes, par exemple?
Eh bien oui, certains font de la bulle, oui, tout à fait, tout à fait. Et la Bretagne sera sans doute demain une terre de vins pétillant, de vin pétillant naturel ou de terre à bulles. Pourquoi? Parce que toutes les années ne seront pas propices à amener les raisins à maturation optimale pour faire des vins secs. Donc la solution de repli, c'est de faire de la bulle. Voilà, si le raisin n'est qu'à 8-9 degrés, on peut quand même faire de la bulle avec ces raisins-là.
Et comme ce sont des amateurs, ils n'ont pas le droit aux pesticides, donc j'imagine qu'ils font du vin bio à minima, en fait.
En amateur, on a le droit de traiter, si on veut.
C'est pas comme pour les jardins où on n'a pas le droit de...
Dans le respect de la réglementation. Quoi.
Ouais. Ouais. Ah oui, donc quand même, quand on fait une vigne familiale, on peut traiter.
Alors on peut traiter, on peut traiter avec les produits autorisés pour la viticulture. Donc,
vous constatez c'est moitié-moitié,
Mais typiquement, ce qu'on va utiliser, c'est comme dans toutes les régions viticoles, c'est de la bouillie bordelaise. Hein,
c'est autorisé.
On utilise le cuivre. Et après, comme en toute chose, il faut raison garder. C'est surtout ne pas avoir la main trop lourde et en faire un usage modéré. Donc on invite... On n'impose pas. On est un milieu associatif, mais on invite nos adhérents à respecter leur environnement et à utiliser les produits phytosanitaires dans une juste mesure.
Et les gens dont vous parlez, les 150 personnes, c'est pareil, c'est qui?
C'est qui?
Ouais.
C'est vous, c'est moi, c'est monsieur, madame, tout le monde. Il n'y a pas vraiment de profil type. Il y a des retraités, il y a des actifs, il y a des étudiants.
Ils ne travaillent pas tous dans le vin. Ils sont pas tous sommeliers.
Ils sont très peu à travailler dans le vin. Le dénominateur commun, c'est la passion, en fait. C'est la passion. Avant tout, ce sont des gens qui aiment du vin et qui, à un moment, dans leur parcours de découverte du vin, de la viticulture, moi, personnellement, c'est le mien. Voilà, j'ai commencé par déguster le vin, ou m'intéresser aux produits que je dégustais. Voilà, faire des petites formations pour me dire, trouver un petit peu les descripteurs, les termes. Très rapidement, je me suis dit, derrière une bouteille, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gens qui travaillent. C'est quoi le lien entre un produit et ces gens-là? Donc, je suis parti à leur rencontre, dans les régions de France. Voilà, en passant un petit peu les vacances d'été volontairement dans les régions viticoles, faire des dégustations, rencontrer des gens qui sont devenus des amis. Et puis à un moment, on se dit encore plus loin, mais c'est super ce qu'ils font et pourquoi je ne peux pas le faire moi-même? Voilà. Et puis on commence à la maison et puis après on se dit, mais en Bretagne, est-ce qu'on n'est pas plusieurs à avoir la même idée? Et puis hop, on se regroupe, on se rencontre.
Ouais, donc tous les intérêts, au départ c'est de la gourmandise, de la curiosité, après c'est de la science, de l'agronomie,
exactement.
De la chimie,
et du lien, du réseau, du partage. Mmh. Et ce qu'il y a de formidable dans ce monde associatif, c'est que personne n'a 100% des compétences, mais en fait on se rend compte qu'en additionnant les nôtres, on arrive à faire quelque chose de... honnête et puis surtout avec énormément de convivialité, de bienveillance et de plaisir.